Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, 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 galérienne, galérien, pour cette journée du 21 août 2024. C'est bien Livres et Amis, en direct du studio de La Friche, Dominique et Françoise au micro, Sonia à la technique. Nous vous avons laissé avec des rediffusions ces dernières semaines, alors que j'avais fui notre pays olympique pour des cieux plus nordiques, plus calmes et pour des attitudes plus élevées, des altitudes plus élevées. Je retrouve Marseille, sa mère, son mistral, mais il va se calmer. Nous allons pouvoir profiter dans la journée déjà, dans la soirée surtout. Nous allons pouvoir profiter en cette fin d'été des spectacles en plein air de l'été marseillais. À vos programmes, c'est toujours l'été marseillais, plein de spectacles, je le disais, plein d'activités jusqu'à la rentrée. Et c'est l'été, oui, et donc je voulais reprendre mes habitudes un peu comme l'été dernier en vous lisant en entier quelques nouvelles. Et puis j'ai trouvé un recueil qui s'appelle justement « L'invitation au voyage », donc ça me paraissait bien. Baudelaire, en fait son voyage immobile. Et une proposition donc d'invitation au voyage comme nous les apprécions à Livres et Amis. Et après l'invitation au voyage, j'ai retrouvé autre chose. L'invitation au voyage, c'était tout indiqué, mais je suis tombée par hasard dans un coin de bibliothèque sur un livre un peu ancien de Françoise Malet-Joris. Françoise Malet-Joris, les vieux comme moi, bah oui, ça doit leur dire quelque chose, les plus jeunes, pas vraiment. Françoise Malet-Joris, c'est la littérature des années 50-60, avec Le Rempart des Béguines, La Maison de Papier, des prix littéraires pour des romans qui sont le reflet de cette société des années d'après-guerre, avec lesquels on entre dans une consommation encore bien bourgeoise, mais pas encore contestataire ni ultralibérale. En fait, ni mai 68, ni Sarkozy, ni Macron, plutôt De Gaulle ou Pompidou. Alors le livre du coin de la bibliothèque, là, c'est « Le clin d'œil de l'ange ». Un livre qui dormait donc sur un rayonnage tranquille depuis sans doute quelques années. Et ce clin d'œil de l'ange, c'est à lui seul un recueil de nouvelles, pourrait-on dire, sur les fantaisies de Cupidon, c'est-à-dire des histoires d'amour un peu bourgeoises, mais aussi un peu fantasques, et tout de même très satiriques de cette société bien installée dans ses valeurs et dans son train-train bourgeois. Alors, comme je parlais tout à l'heure du Nord, j'ai choisi pour commencer un récit qui se passe à Anvers, et oui, Anvers, en pays flamand, mais dans la nouvelle donc, de Françoise Malet-Joris, eh bien, finalement, c'est un Anvers ou une ville d'Anvers bien tranquille et dans laquelle les combats flamingants ne sont pas encore posés. Donc je vais demander à Françoise de commencer cette lecture de Anvers qui commence avec une fête foraine aux environs de Pâques. Et cette découverte de la fête foraine par un Ludo qui est peintre, ça va être, oui, un vrai changement dans sa vie, une vraie surprise. Donc, allons jusqu'à Anvers avec Françoise Malet-Joris.
La fête foraine à Anvers s'installe aux environs de Pâques. Il a été question l'année dernière d'importer quelques nouvelles attractions. des manèges plus modernes ou peut-être des numéros internationaux qui varieraient, le cirque de Pékin ou un petit morceau de ce cirque. On a proposé finalement aux édiles que des dauphins savants, une sorte de Marineland portatif, et ça, il y en a au zoo. D'ailleurs, il y a tout à Anvers, qui est la plus belle ville du monde. Alors, la ville a-t-elle besoin d'autre chose que de l'image de la fête foraine ? C'est pourquoi la fête, pareille à une religion qui, en s'appauvrissant matériellement, épure sa doctrine, malgré ses ostensoirs ternis et ses chevaux de bois qui tournent encore mais ne montent et ne descendent plus, la fête foraine annuelle d'Anvers, qui se situe avenue de Belgique, entre la banque et l'opéra, reste pieusement fréquentée. Dans la baraque à gaufres, baptisée Salon Fritz, et toute constellée de miroirs, on jouit du plaisir bousculé de manger la même chose, gaufres ou frites, que ces dizaines de voisins multipliés par des dizaines de miroirs, devant les trains fantômes d'où sortent des cris de frayeur enregistrés, car nul n'a plus peur d'un train fantôme aujourd'hui, devant les phénomènes, ces reconstitutions en cire de jumeaux siamois, ce géant et ce nain, que l'on a vu vieillir, cette femme poisson pompeusement dénommée sirène, devant l'enclume où l'on vient mesurer ses forces, les petites voitures rageuses qui se mettent l'une sur l'autre dans des crépitements d'étincelles, c'est le plaisir du rituel qui ramène encore cette année les Anversois. Ludovic, 40 ans, artiste peintre, s'y promène cherchant une idée, un effet de collage peut-être, pour un portrait qu'il n'arrive pas à terminer. Sa femme et ses enfants sont au bord de la mer. Il a fait de son modèle, Madame Hirsch, 20 esquisses qui ne le satisfont pas. Elle a de beaux cheveux, c'est tout ce qu'on peut en dire. Sur fond de grandes roues, dans le soleil qui éclabousse les glaces du salon Fritz, à l'infini répercuté et fragmenté, cette banale beauté banquière prendrait-elle de l'intérêt ? Des grappes de ballons circulent au-dessus des têtes pressées de la foule sans qu'on puisse voir qui les retient. De temps en temps, l'un d'eux éclate au soleil mélancoliquement. Bien sûr, un effet de collage, c'est facile. Marie-Louise, sa femme, dit souvent à Ludo, avec une sincère admiration, « Il a tant de facilité. C'est facile, c'est même dépassé. Mais est-ce que la fête foraine, ce n'est pas factice ? Facile et dépassé ? Et pourtant, cette affluence signifie quelque chose, comme le succès des portraits de Ludo, qui a redonné le goût du portrait de famille à toute une génération de bourgeois éclairés. D'une petite baraque proprette, de toile et d'isorelle, s'échappe par le truchement d'un porte-voix ou peut-être d'un micro, une voix suraiguë qui annonce, tous les quarts d'heure, l'exhibition d'une femme poisson, véritable sirène découverte à l'état sauvage à l'embouchure de l'Escaut. À l'endroit même où fut capturé il y a 3 ans le phoque Oscar, qui vit maintenant, mascotte d'un poissonnier, rue Brederode, où l'on peut lui rendre visite. Une pauvre mascarade sans doute, indigne des trucages de cinéma de Walt Disney à Esther Williams. Et pourtant, une queue se forme dans laquelle Ludo s'insère. Badaud collectionneur d'images, il sait qu'il faut jeter l'épuisette même dans les flaques de la vie. Il suit la file derrière les autres. Il pénètre dans la baraque plus grande que l'on ne croirait. C'est une pièce peinte en blanc avec sur 3 côtés des gravures scientifiques, joliment encadrées de bois sombre qui représentent des baleines, des phoques, des narvals, munis de leurs cornes légendaires qui donna naissance à la légende de la licorne, et toutes sortes de représentations, proues de bateaux, gravures anciennes, photographies d'œuvres d'art, de la sirène, monstres ambigus, perfide séductrice d'Ulysse, douce victime d'Andersen. Il est évident que par ce petit musée récapitulatif, on a essayé autant que possible de donner de la dignité à ce pauvre spectacle. L'aquarium qui occupe le fond de la salle est assez grand, rempli aux 3/4 d'une eau verte, propre, sauf un trognon de pomme qui flotte à la surface. Quelqu'un a voulu s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un jeu de miroir. La sirène, ou femme poisson, est une jeune femme dont les cheveux blonds, comme il se doit, flottent mollement sur l'eau et qui écarte d'un geste quand ils lui reviennent sur le visage. Ce visage est doux, un peu endormi, très flamand. Une paysanne qu'on est allé chercher dans un trou de la campine et à qui on a appris ce tour. Car il y a tout de même un tour. La sirène est bien sûr une infirme, pauvre fille dont les jambes sont soudées des chevilles au bassin et qui se trouve assise sur une rocaille entourée de faux coraux. Elle a dû s'exercer à l'art de la plongée, car elle reste là assise 2 bonnes minutes, laissant de temps en temps échapper de ses lèvres une petite bulle d'air. D'une volte simple, lente, elle remonte à la surface, renverse la tête, aspire sans hâte une longue goulée d'air et redescend. Elle est assise à nouveau, une sorte de chiffon rose entre les mains. Elle a de grands yeux noirs qu'elle semble tenir ouverts sans effort. Elle est assise sur la rocaille, les jambes repliées de façon à ce que l'on puisse examiner à loisir sa difformité. Elle porte un maillot de bain luisant avec un dessin imprimé d'écailles de poisson et souriant de temps en temps au public, derrière la vitre, soufflant ses petites bulles, dégonflant lentement sa poitrine tendue, tranquille sur sa rocaille, elle tricote. Les 10 minutes sont écoulées, sortie du public, crie une dame âgée qui se tient décemment vêtue de satin noir à côté de l'aquarium. Allons, on sort, on sort. La sirène aussi doit sortir.
Voilà, on sort, la sirène aussi doit sortir. C'est donc dans cette première partie la révélation du spectacle de La Sirène. Ludo vient de trouver peut-être une nouvelle source d'inspiration. Mais voyons la suite. La sirène aussi doit sortir, ou du moins remonter par les 3 marches de métal à la surface de l'aquarium. Reposer un peu ses poumons, reprendre souffle et replonger. Dur métier, pense Ludo, en sortant avec tout le monde. Si on peut appeler ça un métier. Monotone surtout. Les 20 ou 25 spectateurs se dispersent. « Je me demande, dit une femme qui sort, elle aussi, et s'est arrêtée pour acheter des beignets, je me demande ce qu'elle tricote. Je veux dire, quelle sorte de fil ? Sous l'eau, hein, ça doit être spécial. Oh, qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est bien une question de femme. Tu vas pas te mettre sirène, s'esclave son compagnon. » Ludo, lui, la comprend bien, cette femme. Lui aussi, ça l'a frappé, cette façon de tricoter sous l'eau. Quelle sorte de fil tricote la sirène ? Quelle chanson chantaient les sirènes, dit un poème. Ben oui, drôle de question, finalement. On aurait pu trouver une occupation plus poétique. Fabrication de colliers de perles ou de corail, que sais-je. Le tricot jure avec la sépiteuse illusion que s'efforce de créer le maillot à écailles, les petits écriteaux calligraphiés sur les mœurs des lamantins, les gravures de l'entrée. Quelle sorte de fil ? Question de ménagère, oui, mais le pourquoi agaçant demeure. On sait qu'il ne faut pas gratter les démangeaisons. Pourtant, Ludo attend la séance suivante, la voix aigrelette qui crie « Trouvez à l'état sauvage, à l'embouchure de Lescaut, à l'endroit même où fut capturé Oscar !» Oui, je sais, mais un phoque n'est pas une sirène. Il porte des ballons sur le nez et s'il tricotait, ce ne serait qu'une attraction. Une sirène qui tricote, c'est choquant. Eut-elle les pieds les plus palmés du monde ? Mais alors, elle s'ennuie, cette fille ? Car enfin, sortie de son rôle de sirène, c'est une jeune fille, une jeune femme. Eh bien, qu'elle tricote chez elle, si elle a un chez elle. Qu'elle tricote, mais quand elle n'est pas une sirène. Ludo est resté planté devant la baraque, qu'il se laisse entraîner par un nouveau groupe de curieux qui se reforme autour de lui. Il suit le mouvement, il dépose à nouveau son obole dans l'assiette que lui tend la dame âgée en noir, si digne, si digne, et entre dans la salle à nouveau, où les bruits du dehors pénètrent à peine. « Notre petit musée de la mer vous présente plusieurs spécimens ?» Il a à peine la première fois écouté le boniment de la dame en noir. Cette fois, il écoute. Et cette voix sévère, avec sa diction impeccable, qui répète en français, en néerlandais, en anglais, les mots savants qui donneront de la dignité à la sirène. Ben oui, finalement, il l'a déjà pensé, mais le tricot jure. Il faudrait le dire à cette dame qui doit être la propriétaire, la manager de la sirène. Le tricot gâche l'illusion et donc fait remarquer les jambes, la poitrine à demi découverte et jolie de la sirène, faisant glisser le monstre, le mythe, à l'état de jolie fille un peu nue qui a eu des malheurs. À nouveau, la vieille dame tire le rideau qui protège l'aquarium. Le trognon de pomme a été enlevé, les cheveux flottent, les jambes soudées provoquent une rumeur, mélange de compassion ou de dérision. Le visage se relève un instant vers la foule, les yeux grands ouverts. Elle les regarde bien en face, la sirène, puis retourne à son tricot. Elle relève alors la tête, souffle une bulle d'air, sourit, tricot. Elle remonte à la surface, aspire, redescend, tricote. Elle tricote sans dextérité, mais sans difficulté particulière. Il ne semble pas que cette activité fasse partie de l'exhibition. L'objet tricoté informe et d'un rose écœurant. Allons, c'est terminé, le public sort, on sort, on sort. La vieille dame tire le rideau. Un bruit d'eau, avant même que Ludo soit sorti, lui apprend que la sirène s'extirpe de son habitacle. Tant mieux pour elle. Il est 6h du soir. Il se dit que c'est sa dernière exhibition de la soirée. Et il se demande pourquoi il est allé perdre son temps à revoir cette image dérisoire. Il est un peu flâneur, oui. Et puis ce qui l'a frappé, ce doit être justement l'effet saugrenu de cette image, l'effet de collage auquel il pensait. Mais bon, Madame Hirsch en sirène, non, c'est pas possible. Tout en flânant, le peintre retourne chez lui, rue du Péage. Maison, musée, cellule, théâtre, édifice des hommes pour y loger leur folie. Celle de la sécurité n'est pas la plus inoffensive. La maison de Ludo est protectrice, sans angle véritable. Une pénombre ronde avec des chaises lourdes et puis de l'argent massif. Tout cela luit doucement sur des meubles cirés. Les étoffes aussi sont lourdes, belles. Une corbeille de fruits d'or sur la table et embaume doucement. Une vieille servante coud quelque part près d'une fenêtre penchée. Peut-être y a-t-il dans la pièce une cage avec un canari, mais ce n'est pas certain. Marie-Louise, la maîtresse de maison, pourrait trouver superflu ou un peu insistant le canari. L'atelier de Ludo est au dernier étage. Décor d'un couple, en fait. Ludo a, du reste, son autoportrait avec sa femme qui trône dans la salle à manger, servant discrètement d'enseigne. Elle proclame à la fois le bonheur domestique du peintre et sa capacité à en restituer l'image, voire à la créer. Sur un fond d'armoire flamande, dont l'une entr'ouverte laisse voir ce beau désordre organisé de nature morte, d'assiettes empilées, de coupes en cristal dont on ne distingue qu'un éclat ou une lueur. Marie-Louise est assise, un peu de biais, sur un fauteuil à volutes. Son mari debout derrière elle, la main sur son épaule, dans une pose traditionnelle, rassurante à souhait. Décrire ce tableau équivaudrait à décrire une toile du XIXe siècle, avec un peu moins d'attendrissement niais, ou une toile du XVIIIe, avec un peu plus de précision dans le trait. Une note de volonté picturale, un brouillard de bonheur qui enveloppait certains chardins ou certains bouchers. Bah oui, finalement, c'est l'aura du tableau. Alors, disons que le peintre est un homme de 40 ans, qu'il a une belle figure virile, une belle carrure, une expression de bonté et de fermeté qui inspire confiance. L'épouse est plus jeune, enfin un peu plus jeune que lui, un menton pointu, des yeux admirables, un chignon noir, haut, plein de bouclettes. Une vraie flamande de type espagnol qui joint la ténacité nordique à l'impétuosité méridionale. Elle a dû beaucoup l'aider dans sa carrière, cela se voit, à un je ne sais quoi de résolu sur ses traits irréguliers mais charmants. Habillée avec un goût parfait, un peu hardi, de jaune vif tranchant sur des gris doux, elle balance au bout de son pied nu une pantoufle d'opéra, une pantoufle brodée d'or qu'elle n'a jamais dû vraiment porter. Ou alors... Ou alors Marie-Louise serait dans l'intimité toute différente de ce qu'elle paraît. C'est ce qui rend la toile, les toiles de Ludo, attrayantes pour le public. Oui, cette toile peut être décrite comme le portrait d'un couple du 19e ou du 18e, mais en fait, c'est une toile d'époque contemplée par un œil d'aujourd'hui, qui ajoute une distance, une incrédulité légère. Le couple, la maison, la vie quotidienne, la joie de créer, et quoi derrière ? Un zeste d'inattendu mêlé au classique, une question posée par un pinceau qui affirme en même temps qu'il est bien inutile de tenter de la résoudre. C'est une nuance qui plaît, qui marche, et la clientèle de Ludo s'étend chaque jour. Un peintre de portrait à notre époque ? C'est une idée de Marie-Louise, justement. La clientèle d'un peintre de talent est aujourd'hui restreinte, difficile à trouver. Les tendances se mêlent, se confondent. L'amateur ne sait plus où il en est et, dans le doute, s'abstient souvent. D'un autre côté, Marie-Louise, elle, ne va pas demander à son mari de se mettre à peindre des chromos pour vivre. Ce serait souligner d'une façon bien grossière le fait que c'est elle qui a apporté la maison en dot avec des espérances et mille autres commodités. Mais elle a médité, elle en est tout à fait capable, vive comme une anguille, petite, mince, ardente, mondaine, sensuelle sûrement. Mais oui, la duchesse d'Albe, déguisée en marat, mais déguisée seulement. Il faudra revenir sur cette ressemblance. Et elle a décrété « Plus aucun peintre de talent ne fait de portrait, de vrai portrait. Donc, c'est ce qu'il faut. Ludo fera du portrait et aura toute la clientèle élégante du pays. » Et il commence à la voir. Marie-Louise a fait un bon calcul. Les relations de sa famille sont pour quelque chose, certainement. Le réel talent, la technique éprouvée de Ludo aussi, bien sûr. Mais il y a quelque chose dans ses toiles, retournons à celle de la salle à manger, il y a quelque chose, par exemple, dans ce couple de parade, de subtilement faux, qui est l'apport de Marie-Louise et qui en fait l'originalité. Il y a aussi dans ce portrait d'un couple quelque chose de subtilement vrai. C'est qu'ils l'ont peint, en somme, à deux. Voilà, on ne va pas encore tout à fait s'arrêter là, mais on voit déjà dans ce début d'histoire l'ironie de notre autrice par rapport à son sujet. Il y a donc la foire, il y a donc la sirène, et puis il y a Ludo, le peintre, qui est comme mise en scène dans ses toiles par sa femme, qui est finalement le manager du couple, comme la vieille dame en noir est la manager de la sirène. Continuons. Ludo monte à son atelier.
Parfois, pour lui seul, il peint autre chose que des portraits. Il ne sait pas trop lui-même quoi, de grands trucs informels, bouillonnant qu'il n'exposera pas. Une part de folie est en lui qui brusquement crève en tourbillons gris ou blanc, avec des touches d'argent, celles de la coupe en cristal isolée de toute forme. Ce sont de brefs éclairs qui n'ont pas place dans la maison. Il n'est pas bien sûr que cette part de lui-même soit la meilleure. Il n'est pas bien sûr que ces toiles-là soient meilleures que les autres. Marie-Louise les tolère. Elle sait qu'en temps voulu, il se remettra au portrait de Madame Hirsch, avec juste ce zeste d'inattendu mêlé au goût classique. C'est une femme d'un grand bon sens. Elle dit même « Ce sont les folies de Corot. Garde-les précieusement, ça se vendra plus tard. » Illusion, bonté, lucidité, cynisme, il ne saura jamais. Il ne connaît pas sa femme. Cela aussi, c'est sur le portrait. La pantoufle, pleine de tact en tout cas d'usage, ne lui fait jamais remarquer que ses toiles ne se vendent pas, ou si peu, ou à un ami monté à l'improviste. Encore, ce hasard n'est-il pas planifié par Marie-Louise ? Vous lui ferez un immense plaisir, a pu lui dire un membre de la famille de Marie-Louise, famille nombreuse, unie, serrée comme le grain d'un tissu. Elle a même trouvé un nom à ses toiles sans nom, des marines. À cause du tourbillon, ou parce que l'atelier domine l'escaut gris et jaune, à cause du glauque, à cause des marines. Il faut donner un nom aux choses. un nom plein de tact qu'on ne puisse blesser. Vous voyez le rapport ? Le glauque, la peur, le nom, le tact ? Vous voyez le rapport ? Pourquoi Ludo y pense-t-il ce soir de Pâques ? Il serait bien en peine de le dire. Mais non, il sait. C'est à cause de la sirène, de l'infirme, le pauvre être blessé qu'on exhibe sous ce joli nom. Le vocabulaire qui révèle et dissimule la dangereuse parole des hommes. Une infirmité, ce besoin de peindre, le besoin de peindre ces choses-là qui ne se vendront jamais et ne sont même pas des toiles de génie, seulement des balbutiements comme ceux de l'amour, ceux des moments sublimes, ceux dont on a honte à l'aube, au milieu des décombres. Marie-Louise dit « Témarine » comme elle dirait d'un aveugle un non-voyant, d'un sourd un malentendant, d'un pauvre un défavorisé. Ça les insère dans la société, leur fait une place. De quoi vous plaignez-vous ? Il peint des marines. La sirène se fait nommer sirène et montre ses jambes. Une handicapée, c'est tout. Vocabulaire. Non, tout de même. Il s'est mis à nettoyer ses pinceaux pour retarder le moment de s'y mettre parce qu'il hésite justement entre marine et portrait. Il y a une différence. La sirène montre ses jambes. Elle vit de son infirmité. Le vocabulaire n'est pas ici tromperie, mais spectacle. Et c'est gauche et misérable de spectacle. Assez. Décidément, il va ce soir se remettre au portrait de Madame Hirsch.
Oui, donc c'est un peu l'hésitation entre la bourgeoisie convenable et puis les grains de folie qui prennent corps quelquefois dans la peinture de Ludo. Grain de folie qui finalement s'exprime aussi par cette rencontre avec, entre guillemets, la sirène. Et grain de folie que Ludo va poursuivre, c'est-à-dire qu'en fait, il retourne voir la sirène. Madame, est-ce que sans lui être désagréable, il y a un moyen de parler à mademoiselle ? La dame, âgée, porte à son cou, fané, un petit camée, bijou respectable par excellence. « Mademoiselle Teresa, monsieur. Elle se nomme Teresa, dit-elle sèchement. Teresa Stark. Il est inutile, n'est-ce pas, de livrer son nom au public quand on peut l'éviter. » « Certainement, madame, certainement. Voyez-vous, je suis peintre, peintre de portraits, et le visage de mademoiselle Teresa, ma fille, monsieur. » interrompt la vieille dame pour bien préciser. Le visage de mademoiselle, votre fille, m'a frappée. J'aimerais esquisser un portrait, une toile, peut-être plusieurs. Il faudrait d'abord, monsieur, qu'elle fût d'accord. Il ne rêve pas, elle a dit « fût ». Si je pouvais lui dire quelques mots, peut-être, en dehors de son... Il hésite, trébuche sur le mot. Comment qualifier le lieu de travail d'une femme poisson ? Lui, il pense aquarium, mais aquarium fait penser à un vrai poisson. Et tout de même, digne, digne, la vieille dame, dame de compagnie d'une altesse déchue. Bien entendu, monsieur, Teresa quitte en ce moment son notarium. Ah, il était bien sûr qu'il y avait un mot. Sortons un moment, il ne faut pas la gêner. La séance est terminée, ils sortent de la baraque. Derrière eux, un bruit d'eau. Mademoiselle Teresa doit s'extraire de son notarium. Ludo a un peu envie de rire, mais il est un peu angoissé. Rien ne lui ressemble moins, rien ne lui ressemble plus que la fascination à laquelle il cède. Par cette incompréhensible démarche, il sort d'un ordre auquel il tient, d'une vie banale revendiquée avec un modeste orgueil. Le flamand est ainsi fait. Il n'en sait pas plus que vous, jamais. Il cherche ses plaisirs, ses sujets de conversation, là où le plus grand nombre les cherche. Et s'il n'est pas d'accord avec vous, il vous dit seulement qu'il ne comprend pas. Il veut passer inaperçu, il est réussi assez souvent. Tout à coup, un écart, une bizarrerie, trahit le curieux, l'amoureux du baroque, le mystique vertigineusement penché vers les abîmes, le pervers ou le créateur. Ludo est ainsi fait. Ah oui, le temps d'un clin d'œil, le temps d'un clin d'œil, parenthèse d'un quart de seconde, bref et clair qu'aucun orage ne suit. Là, je parle pour Ludo, il fera le portrait de la sirène, comme il a peint la pantoufle d'or aux pieds de Marie-Louise. Dans un état second, qui n'est même pas le rêve, l'écume du rêve seulement. Et en dessous, bah finalement en dessous, on ne sait pas, il ne plonge pas, lui. Je voudrais donc faire son portrait, madame, mais bien entendu, il ne serait pas question pour elle de poser dans son auditorium une ou deux esquisses, tout au plus, pendant des séances. Vous logez, vous avez bien sans doute, il n'ose pas dire, une roulotte. Nous disposons d'une caravane, oui, monsieur. Je vois que vous êtes un homme bien élevé. Je vous propose de venir prendre un apéritif, échanger quelques mots avec Teresa. Je ne sais pas si elle acceptera l'idée, mais elle lui fait contourner la baraque, enjamber des câbles, se faufiler entre un grand stand de tir et un gigantesque camion. Elle s'arrête, un léger désarroi passant sur son visage composé. Laissons-lui un moment, le temps de s'habiller. Elle s'en tire très bien toute seule. Vous verrez, c'est une jeune fille tout à fait comme il faut. Et Madame Stark hésite un moment et semble renoncer à qualifier Teresa. Ce que je veux dire, dit-elle un peu nerveusement, c'est que j'espère que vous lui parlerez avec délicatesse, que vous ne cherchez pas uniquement pour votre tableau une curiosité. Ma fille n'a pas été élevée pour devenir une attraction foraine, et même dans cette spécialité, enfin bon, vous avez l'air d'un homme posé, monsieur, vous inspirez confiance, et d'ailleurs, je ne me cache pas, je peux bien vous le dire. Ma fille, vous vous souvenez peut-être, est l'un des bébés Stark, vous savez les bébés Stark, monsieur, les fameux bébés nageurs. Mon mari était champion olympique, médaille de bronze, 1937, et quand nous nous sommes connus, j'ai eu deux jumeaux, Eric et Teresa. Et de celle-ci, finalement, quand on a su pour son handicap, il a dit « Elle ne marchera peut-être pas, mais elle nagera. » Et avant l'âge de 2 ans, oui, monsieur, elle nageait, et son frère aussi. Et nous avons fait les plus grands cirques. On nous a mis à notre disposition des piscines renommées. Nous sommes allés en Amérique, en Finlande, et même à Calcutta. Oh, d'ailleurs, de si vilains endroits. Enfin, bon. Ah, passons. Ce qui est vraiment sportif et artistique nous intéresse, nous a intéressé longtemps. Mais maintenant, on ne veut plus voir que des tours, quelquefois un peu ridicules. Elle fouille fébrilement dans son sac pour chercher une photo. Elle trouve la photo, elle ouvre son petit sac, elle le referme. Mais à ce moment-là, de la belle caravane blanche, toute proche, sort un appel. « Maman !» La vieille dame referme hâtivement son sac. Bon, une autre fois, enfin, elle a faim, elle. Mais vous savez, on ne le croirait pas, mais c'est ces jours dans l'eau, l'effort pulmonaire, ça creuse. J'arrive, ma chérie, nous avons un visiteur, j'arrive. Monsieur, si vous vouliez attendre un moment, je vais lui présenter la chose. Elle est quelquefois un peu susceptible. Nous avons eu des expériences décevantes, par exemple un directeur de cirque, enfin. Oui, oui, ma chérie. Attendez-moi là, monsieur, vous êtes bien peintre, au moins. Mais oui, madame, enfin, voici ma carte. Je suis même assez connue dans ce pays. Il y a 2 toiles de moi au musée d'Anvers et 1 au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Instinctivement, il a trouvé ce qu'il fallait dire. La vieille dame rosit de nouveau, mais de plaisir cette fois, au musée de... Et comme automatiquement, son œil va à la boutonnière de Ludo, qui porte en effet le liseré rassurant de l'ordre de Léopold. « Ah, monsieur, mais c'est un honneur. Oui, bien sûr, elle va comprendre, elle comprendra. » Et elle disparaît dans la caravane. Nous allons disparaître aussi un petit moment pour écouter le grand chanteur belge. Et pas anversois du tout, mais bruxellois. Alors, oui, Jacques Brel, pour le plat pays.
Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest. Écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde, quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
Brel et son plat pays, oui, avec toutes les ambiguïtés, là, quand le vent vient du nord ou quand le vent vient du sud, c'est pas le même pays, effectivement. Et Anvers, bah, ce n'est pas la même ville, si l'on considère l'envers ou l'endroit de sa bourgeoisie, de ses spectacles, et ici, donc, de La Petite Sirène. Donc, la mer a disparu dans la caravane, et Ludo va bientôt être invité à y pénétrer. Écoutons.
Bientôt, des bruits divers, tintements de cristaux ou de porcelaine, exclamations furtives. Mais où as-tu encore mis ? Apprennent à Ludo que des préparatifs extraordinaires ont lieu à l'intérieur de cet espace qui lui paraît si petit qu'il se demande si seulement il pourra y entrer. Il a un instant un peu envie de s'en aller. Son bon cœur le retient. Si préparatif il y a, comment décevoir ? La vieille dame redescend lestement les trois marches de la caravane. C'est étrange l'endroit où le véhicule est garé, cette petite oasis d'herbe avec même un arbre, protégé par le dos énorme des camions. « Venez, monsieur, ma fille vous attend. » L'intérieur de la belle caravane blanche, à petits rideaux crochetés, est plus vaste qu'on ne croirait. On a réussi à y recréer l'atmosphère d'un tout petit salon bourgeois. Miniaturisation savante qui comporte deux paysages encadrés, haut comme la main, sur une paroi, une lampe framboise, abat-jour à franges soyeuses, sur un abattant et la poupée de salon, sur l'une des deux banquettes qui, la nuit, doit servir de lit. En ce moment, ces banquettes sont parsemées de coussinets, enveloppées eux aussi de crochets. On s'assied en se glissant de part et d'autre de la table, pliante, à nappe de dentelle, sur laquelle brille un service à liqueur en cristal taillé avec des facettes mauves. Ludo s'insinue sur l'une des banquettes, écarte discrètement les coussinets. Il ne compare pas cette maison de poupée avec la vaste et tiède demeure de la rue du Péage, non. Elle le fait penser plutôt à la maison de ses parents, modeste fonctionnaire retraité. Marie-Louise se sent obligée de lui dire de temps en temps « Va donc voir tes parents, Ludo. Porte-leur ce gâteau, tiens. Ce sont des choses qu'on doit faire. On finirait par croire que tu rougis de tes origines. » Il y va. Il trouve la maison rétrécie, ses parents tout petits. Il a du mal à trouver ses mots, tandis que, tout content, sortent le service à liqueur, déballent le gâteau avec des exclamations et que par la fenêtre à croisillons Sa mère lui fait admirer les tulipes dans le jardin, grands comme deux fois la caravane. Mais il n'est pas chez ses parents. Il prend l'apéritif avec la femme poisson. Il n'y a pas qu'à Anvers que ces choses-là arrivent, mais il n'y a qu'à Anvers qu'on fait comme si on les trouvait toutes naturelles. Ludo regarde enfin Teresa. Elle est assise en face de lui, sous les petits paysages, un peu intimidée, sérieuse. Deux béquilles sont posées à côté d'elle, contre la paroi. On ne voit pas ses jambes, évidemment. Reste le buste épanoui d'une belle jeune femme blonde, ses cheveux humides réunis en un chignon lâche, le visage presque excessivement régulier, éclairé seulement par de très beaux yeux verts. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une couleur, il n'y en a pas.
Ah bon, d'accord.
Éclairé seulement par de très beaux yeux, l'œil typiquement occidental des Bradones flamandes, sans tracé d'oblique, d'étirement asiatique ou même italien, sans rien dans cette forme parfaite qui puisse suggérer la sournoiserie, la provocation, le sous-entendu, la pensée. L'œil, quoi ? L'œil qui regarde. Trop simple. Déjà, dans son cœur, il hésite à poursuivre son projet. Cependant, la vieille dame, après avoir discrètement consulté la carte, « Monsieur Ludovic Behrens, ma fille, Mademoiselle Teresa Stark. »« Je suis très heureuse, monsieur, » dit la sirène d'une voix douce de pensionnaire. « Votre visage, mademoiselle, m'a frappée. Comme a dû vous dire madame votre mère, je suis portraitiste. C'est pourquoi je me suis permis. » Il a sans le vouloir insisté légèrement sur le mot « visage ». Et mademoiselle Teresa s'empourpre. Pour détourner l'attention, la mère débouche un carafon. Un peu de suze, monsieur Behrens. C'est une liqueur de dame, mais nous n'avons pas l'habitude de recevoir des messieurs ici. C'est qu'il ne faudrait pas croire, dit son regard sévère. Elles doivent traverser les villes et les fêtes enfermées dans leur caravane, dans leur notarium, se défendant farouchement de toute intrusion, visites interdites, comme dans les hôpitaux des grands malades. La vieille dame, toute raidie dans son corset, sa petite guimpe qui serre le cou, son vocabulaire apprêté, et Teresa, un doux refus borné derrière le regard. Malade de quelque secret dans lequel il a par inadvertance pénétré, et que tente de conjurer carafon, poupée et petit coussin crocheté. Il boit. C'est un geste rassurant toujours, pour celui qui boit et celui qui voit boire. Madame Stark ressort son très vieux sac en crocodile et sa photographie. « Tenez, monsieur, voilà Eric et Teresa à 3 ans. Quelle splendeur, n'est-ce pas ? Vous n'êtes peut-être pas très familiarisé avec le monde du sport, mais je vous assure qu'on en parlait. Mes deux petits en pleine gloire. Je leur avais fait des petits maillots avec des écailles en plastique et maintenant, ma pauvre Teresa, vous avez vu ce que je suis obligée de lui faire porter et les dimensions de son notarium ? Comment voulez-vous qu'elle donne sa mesure, qu'elle s'exerce même ? Si nous avions de quoi la présenter dans un bassin, un véritable bassin, vous verriez, monsieur, vous verriez. Tout ça, c'est du passé, maman, dit Teresa. Elle a toujours sa voix d'ange, mais son regard s'est un peu égaré. Madame Stark revient sur terre. « Alors, vous allez faire son portrait, dit-elle avidement. Vous l'exposerez sans doute. »« Oui, c'est possible. »« Ça lui fera peut-être une publicité, dit Madame Stark, avec un mélange de fierté et d'amertume. »« Il n'y a vraiment pas de quoi, dit Teresa. »« Teresa, si tu ne peux pas dire de choses intelligentes, tais-toi, dit la mère. » Ludo sent la perturbation et l'espoir que sa proposition a jeté dans ce salon miniature. Cet élément nouveau, introduit dans la petite vie, dans le petit salon, va peut-être éveiller un germe de rêve presque desséché, inutilisable. Et ce beau visage vide ne réussit plus tout à coup à lui faire oublier, sous la table, ses jambes soudées, que malgré lui, il imagine encore humides, gluantes. La part cachée des êtres, horrible, attirante, il boit sa suze trop sucrée. « Il faudra beaucoup de séances ?» demande Teresa. Elle sourit tout à coup pour la première fois, et l'évidence de sa beauté est telle qu'il se sent de corps et de cœur brutalement remué. « Une dizaine, une douzaine » murmure-t-il, incapable de se rétracter. Madame Stark prend les choses en main. « Dans ce cas, nous prendrons notre relâche à Anvers, » décide-t-elle. « Teresa arrête ses exhibitions dans 8 jours. Nous pensions aller nous reposer un peu à La Panne ou à Ostende, une quinzaine de repos pour cette pauvre enfant, mais Anvers est très bien aussi. Des choses à visiter. Je connais une petite pension de famille très convenable. Ce seront nos vacances. C'est un peu plus onéreux qu'en caravaning, mais nous ne prenons jamais nos vacances en caravane. » « Je vous comprends. »« Oh, je suis contente, » s'écrie Teresa. « Je vais pouvoir faire les magasins, marcher un peu. » Ludo a un regard surpris. Madame Stark, une œillade où il y a comme du mépris. « Elle se débrouille très bien avec ses béquilles, » explique-t-elle, « et elle aime se promener. » Pour oublier, n'est-ce pas ? Elle n'oubliera pas, c'est évident, une injustice que la vie lui a faite. Elle en parle de la vie, comme d'une relation commune dont elle pourrait, si elle voulait, dire bien du mal. Seule son éducation distinguée l'empêche de le faire. « Mais il ne faut pas rester à Anvers uniquement pour moi, » s'écrie Ludo, avec un empressement peut-être excessif. « De toute façon, il faut bien se reposer quelque part, et Anvers, tout compte fait, sera peut-être plus économique que La Panne à Pâques. » Que peut-il répondre, sinon ? « Naturellement, si je fais poser mademoiselle, je me ferai un devoir, un dédommagement. C'est si naturel. » Teresa ne cille pas. Habitude d'être marchandée, vendue avec note en bas de page. Le maillot sera remboursé par le directeur du cirque machin. C'est Madame Stark qui se trouble un peu. « Nos ressources sont maigres, monsieur. Je ne rougis pas de vous le dire. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse supposer, c'est une pension très convenable. » Ludo reste éberlué. Est-il possible qu'elle veuille dire « C'est vrai qu'il a ressenti tout à l'heure un brusque émoi, mais si fugitif, simple fantasme. Comment peut-on imaginer ?» La vieille dame semble lire dans ses pensées. « Ça vous étonne, monsieur, parce que vous êtes un homme honorable et un artiste, comme nous. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de propositions douteuses qu'elle a reçues. Jusqu'à un directeur de cirque, et il lui aurait offert la piscine démontable où elle aurait enfin pu donner sa mesure. Redevenir ce qu'elle était, car vous ne pouvez pas vous représenter, monsieur, ce qu'elle était. Elle a toujours été comme elle est, physiquement. Mais dans l'eau, monsieur, son père avait trouvé une technique. Elle se déplaçait plus vite et plus souplement que son pauvre fer, c'est tout dire. Non, non, ma chérie, je n'en reparlerai pas. Bref, j'ai mis le holà pour ce directeur. Dieu sait d'ailleurs s'il aurait tenu ses promesses. Et pas d'éducation, monsieur, pas de sentiment. C'était pour ses jambes.
Eh oui, alors, souvenir de l'exploitation que la jeune femme a subie ou aurait pu subir. Et la mère continue. « Vous, monsieur, je vois que vous êtes un honnête homme, un homme intelligent, on peut tout vous dire. Les gens sont attirés par ces gens, monsieur, comme ils sont attirés par les monstres. Vous ne pouvez pas savoir. C'est une folie, un besoin. Si elle avait voulu, on voudrait ne pas le croire, ou plutôt on se promène avec ça, mais on ne veut pas savoir ça. » Ça ? C'est Teresa qui pleure. Ses larmes coulent, alors que son visage reste immobile. On dirait à nouveau qu'elle exécute un tour. Pleurer sur commande. Mais encore cette peur d'être exhibée, les jambes, les larmes, finalement c'est tout un. Alors Ludo prend congé en laissant une avance. Le soir à l'atelier, ce goût de Suze encore dans la bouche, dont il ne peut pas se défaire, ce goût de liqueur amer comme les larmes et sucré comme peut-être la vie va l'être. Ce goût, il le finit, et en même temps, il finit d'un trait, avec une facilité étonnante, le portrait de Madame Hirsch. Puis elle appelle Marie-Louise à la villa. Comme il a terminé le portrait, il viendra pour le week-end. « Ah, comme ça tombe bien !» dit Marie-Louise. « Il y a justement Jacques, Robert, Geneviève qui viennent dîner samedi. Et dimanche, mes parents. Comme ça, ils ne viennent pas souvent, mais cette fois, eh bien, c'est merveilleux, ça fera coup double. » elle rit. Ils ont souvent beaucoup d'amis. On aime aller les voir. Ils ne posent pas au couple exemplaire, mais ils s'accordent, comme s'accordent des instruments de musique. Cela n'implique finalement aucune intimité. Ils sont, Ludo et Marie-Louise, ce qu'on appellerait en Amérique très populaires. Ils ont de l'argent, mais ne le font pas trop voir. Leur richesse, c'est leur table, la qualité de leur plat, la qualité de leur vin et un moelleux qu'un luxe discret répand dans la vie quotidienne. Marie-Louise s'habille bien. Elle achète à Paris ses chapeaux, elle les porte. Et les chapeaux lui vont bien, une jolie femme, comme on dit. Quand on parle d'eux, les lieux communs viennent aux lèvres, tout naturellement. Les lieux communs, peut-être, finalement, c'est ce qu'on aime en eux. Le contraste physique entre ce bon géant placide et cette petite femme vive qui le mène par le bout du nez, qui correspond à un schéma traditionnel et piquant, comme dans les portraits. Un jeu, peut-être. Comment savoir ? Se demande parfois Ludo en mordillant sa pipe, si Marie-Louise, en le guidant, le sauve ou le mutile, le désire riche, le célèbre ou le blesse, tout à la fois. Elle administre son mariage comme ses biens, avec compétence. À Ostende, dans l'arrière-pays, ils occupent une belle demeure dorée par la lumière du soir. C'est une villa blanche, avec une terrasse d'allée, un terrain, oui, un jardin de dimension modeste, mais un terrain au-delà. Les enfants, Rosette en petite robe à col marin, Paul en culotte de cuir tyrolien, ils jouent là-bas, au fond, près d'une balançoire. Et devant, il y a le tas de sable, un tricycle renversé. C'est comme la terrasse où les amis sont groupés, les uns allongés sur des transats. Les autres qui parlent en aparté, chacun par deux, par trois, sur le rebord d'une fenêtre ou au coin du jardin. Et puis Marc, là-bas, regarde les oiseaux dans les bouleaux argentés. Marc, c'est un rêveur professionnel. Et le cri de Louise, enfin Marie-Louise, qui arrive en poussant la table roulante. « Marc, tu es encore en train de rêver, viens donc faire la jeune fille de la maison. » Ce cri de Marie-Louise est rituel. Comme l'affirmation de Marie-Louise, justement, et comme Marc s'empresse. « Ah oui, heureusement que tu es là. Ah, mon mari est bien trop paresseux pour servir les invités. » Ludo tire sur sa pipe en souriant. Quelqu'un dit « Tu as vu le dernier Delvaux ?»« Mais non, pas le peintre, le cinéaste. » Et il y a deux représentations exceptionnelles de Tristan à la Monnaie. Vous irez ? On pourrait réserver ensemble. » Et Jeanne m'a demandé le plus sérieusement du monde, comment on s'habille pour une conciliation en divorce? Elle voulait mettre son tailleur en cuir vert. Alors non, je lui ai dit que non, c'était pas ça. Ce sont de bons amis, cultivés en général, sauf Marc, auquel on accorde une dispense. Ils ont tous le caractère égal, gai et même un peu piquant. La grosse Cécile fait rire tout le monde avec ses régimes et ses passions malheureuses. Elle en plaisante gentiment elle-même. Roland est un jeune avocat très brillant. Il collectionne les livres rares, il raconte ses trouvailles. Colette, finalement sa femme, elle est réputée pour son élégance, sa beauté. Elle va à Paris très régulièrement voir les collections. Et elle vient de décider tout à coup de reprendre ses études pour pouvoir présenter une thèse sur l'histoire du costume aux Pays-Bas. Du XIIe siècle à nos jours. Alors, ses amis, oui, ils sont une douzaine, et ce soir, ils sont venus en voiture, ils savent que Marie-Louise peut recevoir avec un impromptu étudié. Elle ne se formalisera pas d'un convive de plus ou de moins. Donc, ses amis, on pourrait les décrire, oui, l'un en costume de tennis, l'autre jaloux de sa femme, un autre encore préoccupé d'un mauvais placement. Ils ne sont pas interchangeables, mais ils sont un peu tous les mêmes. Vous savez, c'est un peu Jacques Brel aussi. Les bourgeois, c'est comme... Enfin bon, je ne vais pas vous le faire, mais on le sait. Les bourgeois, le mot est peut-être un peu trop péjoratif. Et ils n'ont pas en majorité tant d'argent que cela, mais juste ce qu'il faut. Ils ont quelquefois un peu de mal à boucler les fins de mois parce qu'ils font un extra et puis d'autres, en effet, publient des articles ou font quelques expériences pour mettre du beurre dans les épinards. Ce qui les unit, c'est le vocabulaire. Oui, est-ce que je ne viens pas d'employer l'expression « du beurre dans les épinards » Ce qui les unit, c'est l'acceptation tacite du lieu commun. On en a déjà parlé tout à l'heure, le lieu commun. « Ça a bien marché, chérie ?» demande affectueusement Marie-Louise à son mari en se penchant pour lui verser sa bière favorite, la bière d'Oudenarde. « Ah, ben je suis contente que tu aies fini ce portrait. Elle t'aura fait souffrir, Madame Hirsch. » « Quoi ? Il y a une femme qui fait souffrir Ludo ?» crie Cécile, de loin, un peu échauffée par le soleil et l'alcool. « Notre Ludo a une double vie !»« Mais non, il n'oserait pas !» dit Marie-Louise en riant. Et dans un défi plaisant, elle redresse ses épaules, bombe ses seins légers, et elle renverse l'image du portrait qu'on a vu tout à l'heure. C'est maintenant elle, debout, cambrée, qui pose la main sur l'épaule de Ludo, et tout le monde rit. L'envers du portrait, oui, l'envers du portrait qui ne fait finalement que confirmer l'endroit, un couple complémentaire. Et oui, comme on sait peu de choses des êtres qui vous sont proches, Marie-Louise est-elle vraiment si sûre d'elle-même? Et est-elle si sûre de sa vie? Il y a beaucoup de choses qu'on est tenté de comprendre, mais auxquelles on peut prêter un mystère. Comme Ludo regarde ses amis groupés sur la terrasse comme une photo de vacances, comme une toile de Bonnard ou de Monet. Insister sur un détail, l'étoffe à chevrons discrets, le vase posé sur le rebord de la fenêtre. Insister sur un détail ou sur une particularité, peut-être la pédérastie éthérée de Marc, peut-être l'équilibre un peu sadomasochiste du couple Roland-Colette. Insister sur un détail, ça ne fait rien progresser finalement. Il s'agit d'un portrait de groupe cette fois-ci. Mais que va-t-il devenir ce groupe? Que vont-ils devenir? Que va-t-il devenir aussi ce couple? Marie-Louise avec son aisance, son accueil parfait, ses conseils judicieux, l'éducation de ses enfants, les relations. Oui, tout cela dénote un plaisir indiscutable de la vie, une grâce aussi. Et le soir, bien sûr, l'étreinte, quand les enfants sont partis, quand les enfants sont couchés. Marie-Louise reste étendue sur le lit de la chambre conjugale. Elle est accoudée plutôt dans un déshabillé jaune d'or, un déshabillé très vif, comme un appel ou une provocation. Elle a les yeux brillants, Ludo a posé sa pipe. On dit que beaucoup d'époux, au bout d'un certain nombre d'années, cessent de se désirer, mais ce serait mal connaître Marie-Louise. Non, vraiment, aucun problème. Ils ne se parlent pas, mais c'est la nuit, ils sont là. Ils sont là pendant que c'est le dimanche à Anvers. Et oui, ce dimanche à Anvers, la plus belle ville du monde. Ludo pourra aller chercher au marché aux oiseaux un perroquet. Et Teresa pourra broder pour se reposer de tricoter, revendication de sirène. Ludo poursuivra sa promenade sans vouloir s'avouer qu'il va vers le champ de foire, qu'il retourne vers la baraque de la sirène. C'est vrai qu'il a laissé une jolie somme à la mère Stark. Il peut avoir changé d'avis, trouvé un autre sujet de tableau, non? Les artistes, c'est connu, sont fantasques, mais Ludo, lui, n'est pas de fantasque. Il ne sait pas très bien ce qu'est un artiste, d'ailleurs. Alors, est-il un artiste quand il peint ses portraits avec une sorte d'ironie qui fait leur charme, ou bien quand il se retrouve devant ses marines dont il n'arrive pas à tirer profit? La question reste posée, voilà, on vous laisse avec les questions de Françoise Malé-Joris sur Anvers, sur les peintres, sur la vie des bourgeois qui sortent des lieux communs comme ils respirent. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. En attendant, bon été marseillais. À bientôt.